De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Alors, je vous le résumais très brièvement tantôt, là, la polémique qui a entouré le vote pour un changement de fiscalité du côté de Sainte-Victoire, mais c'est une problématique qui touche beaucoup plus que Sainte-Victoire, qui touche l'ensemble des agriculteurs au Québec, parce qu'il y a eu des réévaluations des terres agricoles aussi qui ont changé la donne pour plusieurs. On va recevoir pour jaser tout ça avec nous Sylvain Joyal, qui est le président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, comme on dit, de Richelieu-Yamaska. Monsieur Joyal, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Monsieur Joyal, c'est un pas dans la bonne direction, ce qui s'est passé à Sainte-Victoire, mais c'est pas la solution à 100%.
Évidemment, c'est pas la solution, mais c'est une sensibilisation qui devait se faire. Et puis, maintenant que les augmentations sont faramineuses, bien évidemment, c'est à ce moment-ci que les producteurs agricoles s'en voient affecter énormément.
Mais là, ça vient d'où d'abord, là, ce changement d'évaluation qui a fait un méchant bond, là? On parle de 120%, ce que,
exactement. Dans certains cas. Là. C'est pas d'hier. Ça a commencé dans les années 2005 environ. Les municipalités, à un moment donné, se sont aperçues que c'était quand même assez facile d'aller chercher de l'argent par rapport aux terres agricoles, étant donné que l'évaluation des terres agricoles montait régulièrement. Et puis, à ce moment-là, ben ils se disaient, c'est pas grave, si les taux de taxes sont assez élevés, les producteurs ont des remboursements de taxes, eux, ça les affecte plus ou moins, et nous, ben ça nous aide à payer tous nos services municipaux.
Sans jeu de mots, là, ils vous considéraient comme des vaches à lait ajustables.
En partie, en bonne partie.
Oui. Mais ça, vous dites que ça a commencé en 2005, puis là, ben, ça a continué, puis là, c'est rendu quand même à des niveaux assez importants. Là.
Exactement. Avec le dernier rôle triennal qu'il y a eu dans la région, c'est-à-dire que les terres agricoles sont réévaluées à tous les 3 ans, et puis une municipalité a quand même le loisir d'attendre un autre 3 ans si elle le veut, c'est-à-dire qu'elle peut au maximum attendre une évaluation à toutes les 6 ans. En ce moment, les dernières années, les terres agricoles ont beaucoup augmenté en valeur versus les résidences qui, eux autres, ont monté d'une façon régulière et basse. Donc, ça fait un écart d'augmentation qui est extrêmement différent des résidences en ce moment.
Est-ce que la spéculation par des acheteurs étrangers nous concerne ici dans la région? J'ai l'impression que les Chinois, entre autres, sont très agressifs dans l'achat de terres agricoles au Québec. Est-ce qu'on est concerné? Est-ce que ça fait partie du problème?
Très peu. La spéculation qu'il y a en ce moment, c'est surtout chez des gros producteurs qui veulent prendre plus grand. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, pour respecter les normes environnementales avec les superficies que ça prenait pour étendre des fumiers, exemple, ça faisait en sorte que les producteurs forçaient la note pour acheter des terres agricoles pour être en loi au niveau de l'environnement. Okay. Mais il y a très peu de marchés d'extérieur en ce moment dans la région ici comme tel. Soit les Chinois, j'en connais même pas un qui a eu une offre sérieuse des Chinois. Par contre, il y a eu un peu d'autres offres là, de multinationales qui s'est faites, mais c'est quand même minime parce que déjà à Montérégie, c'est quand même les terres les plus chères au Québec.
Et là, pendant des années, on a accepté de jouer à la vache à lait, puis aujourd'hui, ben là, le bouchon, là, il explose.
Exact.
Est-ce que la cloche, le signal d'alarme aurait dû être sonné avant?
Le signal d'alarme a été sonné auprès du gouvernement plusieurs fois depuis un bon bout de temps par l'Union des producteurs agricoles. Mais il semblerait que l'impact n'était pas encore assez gros pour que les producteurs et que les citoyens s'alarment vraiment. Vous savez, en ce moment-là, les propriétaires de terres, ce n'est pas tous des producteurs agricoles. Si on prend l'exemple de Saint-Victoire, il y a beaucoup de petits propriétaires qui ne sont pas producteurs agricoles. Si tu as une augmentation de 150%, puis tu as en plus de ça aucune aide gouvernementale, ça fait mal au portefeuille énormément.
Vous parlez des gens qui vont s'établir à la campagne, mais qui vont pas nécessairement se servir de la production de quoi que ce soit sur leur terre, mais ils veulent vivre sur un grand terrain.
Exactement. À l'écart. Il y en a qui ont des petites érablières, etc.
Ouais, on parle aussi des forestiers là-dedans, c'est ça, les gens.
Oui,
qui...
il faut pas les oublier au niveau des forêts non plus. Parce que si je vais vous donner un petit exemple, là, en 2007, là, les taxes agricoles, c'était 7 % de notre revenu net. En 2016, c'était 11 % OK? Et maintenant, pour une ferme moyenne de 330 hectares en Montérégie, on va consacrer 22 % de notre revenu net pour payer des taxes. 22 % ça fait très mal.
Alors, c'est un gros poste budgétaire, ça, là.
Exactement. Ce qu'on pourra dire aussi sur les taxes, OK, où est-ce qu'il faut pas que les gens oublient, parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est que les taxes, c'est un produit et service que la municipalité peut rendre à l'immeuble. C'est-à-dire qu'une terre agricole va profiter de quoi? Elle paie des taxes. Mm-hmm. OK? Elle ne peut pas profiter, exemple, des égouts. Si elle paie des taxes des égouts, ce n'est pas correct, parce que tu n'as même pas le droit de bâtir une maison sur une terre agricole. C'est une zone agricole. Elle va profiter peu de la sécurité publique, de la police. Elle va profiter peu des pompiers. Il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'il existe des taux variés. Il y a des taux variés dans le commerce, dans l'industrie, parce qu'eux autres, ils ont besoin de plus de services de la taxe municipale. Une taxe municipale, c'est pour un bien et service que tu rends ou que tu peux rendre. C'est pas un impôt en gain de capital. Là, ça vaut cher, on va payer plus de taxes. C'est pas ça, là. Okay.
Quelle solution serait avantageuse pour monsieur et madame tout le monde? Parce que là, vous vous retrouvez à faire de la politique municipale parce que le citoyen aussi est affecté par ça. Comment vous voyez ça, là, la solution idéale, ou du moins ce qui s'est peut-être fait ailleurs qui fonctionne?
Et elle vient d'où, cette solution-là? Est-ce que c'est au niveau des municipalités qu'on doit faire nos devoirs, ou est-ce que c'est le gouvernement qui doit mettre des règles plus strictes, plus claires?
Pour être équitable, là, envers chaque municipalité, je pense que ça devrait venir du gouvernement de mettre des barèmes, des limites. Je sais qu'en ce moment, c'est peut-être pas la solution idéale, mais... En ce moment, exemple, à l'UPA, on demande 20 000 $ l'hectare maximum. Là, tu sais, il y a plusieurs petites demandes. Enlever le plafond du budget, que le budget ne vienne pas du MAPAC, mais vient plutôt des affaires municipales. Il y a un paquet de petites solutions comme ça qui sont apportées. Dans d'autres provinces, ben, les taxes sur les terres agricoles sont évaluées selon la valeur agronomique et non pas sur les ventes.
Ce que ça rapporte, autrement dit, le potentiel que ça a de rapporter.
Plus ou moins ça, c'est ça, tu sais. Et puis, il y a différentes façons qui sont évaluées depuis un bon bout de temps par le gouvernement, mais il n'y a jamais vraiment là, eu une prise de position là, de faire quelque chose.
Et là, c'est peut-être pas votre travail à vous directement ici, mais est-ce que l'UPA fait des représentations en ce moment envers le gouvernement de la CAQ pour...
Oui, ça fait déjà plusieurs rencontres. Je pense que ça fait déjà trois rencontres que notre président a avec le ministre de l'Agriculture. Et puis, c'est soulevé à chaque point. Et puis, le ministre de l'Agriculture nous a dit en congrès qu'il prenait le dossier très au sérieux, qu'il acceptait mal que son ministère paie des taxes, pas les remboursements de taxes, que son ministère paie pour renflouer les municipalités.
Parce que les remboursements sont toujours là.
Exactement.
Mais si vous les acceptiez dans le passé parce qu'ils faisaient en sorte que vous aviez bon an, mal an, quand même un montant raisonnable de taxes à payer, là, c'est parce que ce montant-là qui revient n'est pas suffisant. Là.
C'est parce qu'il y a deux choses. C'est un montant-là qui vient du MAPAC. À chaque fois qu'il augmente, nous, notre enveloppe pour tous les autres services du MAPAC diminue. Oui. Ça, c'est une chose. Donc, on a beaucoup moins de services du MAPAC qu'on en avait il y a 10 ans.
Quel genre de
service? Parce que l'enveloppe s'en va ailleurs.
Quel genre de
service? Au niveau agronomique, au niveau sécurité de revenus, etc. Tu sais. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de services qui ont perdu. Maintenant, l'autre chose qui est importante à souligner, c'est que le budget pour les remboursements de taxes est limité à 5 % d'augmentation par année. Quand tu as une augmentation de 150 à 200 % sur 6 ans, la valeur des terres, si, exemple, on prend 200 % puis vous divisez par 6, bien, ça fait beaucoup, beaucoup plus que 5 % par année. Donc, la différence qu'il y a, on est obligé de le rembourser au gouvernement.
OK.
Fait que, oui, le gouvernement va nous donner une enveloppe de plus ou moins 70 % de remboursement de taxes. Mais après ça, nous, il faut rembourser parce qu'on a défoncé le plafond. Fait que c'est assez compliqué.
Effectivement.
Puis un autre dilemme qu'on dit souvent, puis qu'il se dit pas assez, c'est la façon que l'évaluation des terres est faite. Si je peux me permettre, je vais le dire rapidement.
Non, allez-y.
C'est que il y a 60 % des terres agricoles vendues au Québec qui sont vendues à des acheteurs qui sont liés, c'est-à-dire au fils, à la fille, à la femme, etc.
Ouais.
Quand il y a des transactions en personnes liées, c'est pas tenu compte. C'est toujours retiré dans l'évaluation des ventes. Donc, ça fait en sorte que, si exemple, une terre est évaluée à 20 000 $ dans une paroisse, mais la réalité est beaucoup moindre. Parce qu'un producteur qui va vendre à son fils, à sa femme, il va vendre ça à un prix beaucoup plus bas parce que sinon, il n'y aura aucune relève qui va être capable de prendre la terre agricole.
C'est sûr.
Et de la façon qu'on fonctionne?
La façon qu'on fonctionne, c'est que les évaluateurs prennent les terres qui se sont vendues. Ils font une moyenne. Okay. Puis avec cette moyenne-là, ils font l'évaluation. Mais ils retirent toutes les terres vendues en personnes liées. Et puis, ce qui est spécifique à l'agriculture, c'est que 60 % selon les statistiques du Québec, 60 % ou un peu plus, qui est vendu entre personnes liées.
Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est là où les augmentations sont plus fortes, parce que on prend en compte seulement que ce qui s'est vendu à gros prix, finalement.
En gros, c'est ça. Mais ça, c'est une partie des lacunes, comme vous avez dit tantôt. C'est qu'en plus de ne pas prendre... De ne pas prendre la valeur agronomique, mais de prendre une évaluation faite sur les ventes où est-ce qu'il y a des services qui ne sont pas attribués aux terres agricoles. En plus de ça, l'évaluation est faussée parce que c'est juste dans le domaine agricole qui fait beaucoup, beaucoup de transactions en personnes liées.
Écoutez, M. Joyal, problème là, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure d'évaluation, l'échange Canada, Mexique, États-Unis... On les longe pas, nos agriculteurs.
On lui fait pas la vie facile, en tout cas. Je pense pas.
Précisément, vous avez raison. En ce moment, en agriculture, là...
Faut vouloir, hein?
Faut vouloir. Faut avoir vraiment du guts. Moi, je parle à la relève agricole en ce moment, qui est assez découragée, merci. Quand il y a eu la problématique de Saint-Victoire, là, je peux vous dire que des producteurs de la relève, il y en a beaucoup qui m'ont téléphoné. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. C'est pas pour rien qu'en agriculture... Il y a deux fois plus de suicides que dans les autres domaines. C'est des gens fiers, c'est des gens qui admettent difficilement de ne pas réussir. Et puis,
qui n'ont pas le temps d'être malades.
Ah, ils n'ont pas le temps de penser au burn-out.
Oui, c'est ça.
Pourtant, fait qu'il n'y a pas beaucoup de burn-out en agriculture. Il y a tellement d'ouvrages à faire. Maintenant, c'est comme dans tout domaine. Tu es rendu que tu fais plus de gestion que tu fais de travail sur le champ, tu sais.
Ça aussi, il faut falloir que ce soit adressé par le gouvernement.
C'est noté régulièrement. C'est noté régulièrement. Chaque nouveau gouvernement, on souhaite pour le mieux.
Parce qu'on dirait, que les... Puis là, j'ose aller jusqu'à... On parle du gouvernement, mais les administrations municipales, les administrations des MRC aussi, doivent prendre en compte l'importance de la production agricole dans une région, surtout une région comme la nôtre, puis en Montérégie, il y en a plein, puis c'est encore mieux, j'imagine, c'est encore plus important, j'imagine, dans les régions plus rurales, mais il faut tenir compte, puis arrêter de servir ou de frapper sur ces gens-là, mais plutôt de les encourager, de faire en sorte, parce qu'il ne faut pas que ça diminue, il ne faut pas que ça s'éteigne, ça, là, cette production-là. C'est important, vous nourrissez la planète.
Tout à fait. Hein. Si on parle de notre MRC, entre autres, là, vous savez, on a pratiquement 90 % du territoire là, qu'on doit s'occuper. C'est pas juste de bien s'en occuper. C'est une fierté pour nous autres. Là, mais on veut en vivre convenablement aussi.
Ouais.
C'est bien beau de dire on veut. C'est beau, on l'entretient. Il faut être capable de l'entretenir.
Parce que monsieur, madame, tout le monde déambule dans les rangs de Sainte-Victoire, Saint-Aimé, etc., puis on voit les belles grandes terres. Vous avez l'air prospère.
Ah oui.
Hein? Ça n'en jette, là, les gens. Ils sont riches, eux autres. Ils peuvent en prendre, ils sont capables d'en prendre.
On a un niveau d'endettement beaucoup plus élevé que la moyenne de l'industrie. en agriculture, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne en business maintenant. Il faut que tu sois up to date.
Ouais, puis les équipements ne sont pas donnés. Hein?
Ils ne sont pas donnés, exactement. Là, puis il y a une certitude derrière ça aussi.
J'ai hâte de faire une entrevue avec un agriculteur, quelqu'un de l'UPA, qui sera positif, qu'on ait une bonne nouvelle. une bonne nouvelle.
Ben, si vous m'aviez parlé l'an dernier, je vous aurais dit qu'on a une très bonne nouvelle parce qu'on avait une saison très favorable à l'agriculture. Même en 2019, on pensait que ça serait... En 2018, on pensait que ça serait pire que ça, finalement.
En 2018, on s'est rencontrés pour parler du lait, des problématiques du lait.
Oui, c'est ça.
Il y a toujours quelque chose.
Mais en 2017, au niveau des céréales, c'est une année extraordinaire au niveau des rendements. Ça, c'est des genres de bonnes nouvelles qui nous font du bien, puis qui nous consolident financièrement en même temps, qui fait qu'on reprend un peu du poil de la bête.
On vous en souhaite une bonne.
Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup, M. Joyal. Sylvain Joyal, le président du secteur régional, le Richelieu-Yamaska de l'UPA, chez nous, pour soulever les problématiques que vivent au quotidien nos agriculteurs de la grande région. Puis je pense qu'au Québec, au camp complet, ils ont, la problématique s'est répandue aussi. Il est temps que nos gouvernements en prennent soin. On s'arrête le temps d'une pause. De l'autre côté, on va se donner un coup de chapeau à notre ami Maurice Parent.
Express Pub.